Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Très bon début de matinée. Merci de vous réveiller avec nous. Vous avez choisi le petit matin d'Europe 1 et on ne peut que se réjouir de cet excellent choix. Nous sommes le 2 juin et c'était il y a 70 ans.
Il y a 70 ans, la reine Elizabeth Windsor était couronnée à l'abbaye de Westminster et devenait ainsi Elizabeth II. Et bien 70 ans et quelques rites plus tard, les sujets de sa gracieuse majesté comptent bien célébrer comme il se doit cette exceptionnelle longévité.
70 ans de règne, Elizabeth II fait mieux que la reine Victoria, un record qui vaut bien un jubilé de platine.
Oui, défilé, parade, course de chevaux, concert. Pendant 4 jours, le cœur des Britanniques ne battra que pour leur queen, dont on sait que l'état de santé s'est quelque peu dégradé ces derniers mois. Une reine fatiguée aux commandes d'une monarchie chahutée, voilà qui soulève tout un tas de questions passionnantes.
Que nous poserons à notre invité à 6h10, le grand reporter Antoine Michelan, chef du service royauté du magazine Point de Vue.
Ce matin, on va également se pencher sur une nouvelle étude britannique de grande ampleur, publiée dans le British Medical Journal à propos du test du papillomavirus.
Oui, appelé également le test HPV, le papillomavirus est ce virus sexuellement transmissible. Si le plus souvent il est éliminé naturellement par le corps, dans certains cas, les infections qu'il provoque peuvent dégénérer en cancer du col de l'utérus après une quinzaine d'années.
Eh bien, cette étude confirme qu'un examen de dépistage tous les 5 ans pour les femmes âgées entre 30 et 64 ans est suffisant.
Oui, qu'en pense notre invité, le docteur Joseph Monsonego, spécialiste des pathologies induites par le papillomavirus. On en profitera pour lui demander également où nous en sommes avec la vaccination en France. Rendez-vous à 6h moins le quart.
Et puis votre partition pour conclure.
Du ska, de la soul, du jazz et de l'acid house. Alors sur le papier, ça n'a aucun sens et pourtant... Les Fan Young Cannibals ou la science du mélange des genres dans les années 80, rendez-vous à 6h20.
Pour une matinale finalement très british
totalement
ce matin.
Anglaise.
Bonjour Anissa Dadi.
Hello.
Good morning.
Je m'arrête là en revanche, ouais, okay. En termes de vocabulaire.
Est-ce que les orages sont déjà là hein?
Alors pas encore, les orages, c'est vrai que je vous en parle depuis le début de la semaine, arrivent aujourd'hui, mais ils vont arriver en deuxième partie de journée et ça risque d'être assez costaud hein, quand même entre la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes. On va avoir une bande orageuse avec par endroits des orages assez forts accompagnés de grêle et de vent. 2 à 3 petites gouttes ce matin sur le sud du massif central. On a un ciel déjà bien dégagé sur la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur ont quelques grisailles au bord de la Méditerranée, rien de très inquiétant. Et puis sur le nord du pays, sur le Cotentin et la Normandie, on aura un ciel bien gris en deuxième partie de journée. C'est assez calme au nord de la Loire. Quelques grisailles, mais ça va se dégager. Et puis, dans le sud de la Loire, cet après-midi, les orages arrivent. Alors, côté température, on a un peu frais ce matin. 1 à 6 degrés entre la Bretagne et les Hauts-de-France, jusqu'à 18 dans le sud. Et cet après-midi, la chaleur gagne la moitié nord du pays. 18 à 26 sur le nord-ouest, jusqu'à 32 en Alsace et 35 au bord de la Méditerranée.
Thank you very much, Miss Adadi. You're listening to Europe 1. Et il est 6h.
5h.
Oui. Même 5 heures.
C'est mieux. 5 o'clock.
5 o'clock in the morning. Et c'est la fin d'un feuilleton qui a tenu en haleine des millions de personnes. Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard. L'acteur en est sorti gagnant, même si les deux stars ont été condamnés pour diffamation. Récit de notre correspondant dans un instant. Les choses auraient pu être mieux organisées. Gérald Darmanin reconnaît des couacs, mais maintient ses chiffres. Le ministre de l'Intérieur et celle des Sports étaient auditionnés hier au Sénat sur les incidents aux abords du Stade de France. Et puis, God Save the Queen, début de 4 jours de festivités au Royaume-Uni pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Stéphane Bern reviendra dans ce journal sur l'importance de ce jubilé de platine.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5 heures vous est donc présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. C'est un procès que l'Amérique et plus globalement le monde a suivi comme une saga pendant 7 semaines. Celui opposant Johnny Depp à Amber Heard, reconnu hier soir tous les deux coupables de diffamation par le tribunal de Fairfax en Virginie après 13 heures de délibération. L'actrice devrait l'indemniser à hauteur de 10 millions de dollars. Johnny Depp doit de son côté lui payer 2 millions de dollars. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis et c'est bien Amber Heard de la perdante de ce procès.
À la question, la portée diffamatoire a-t-elle été conçue et voulue par Madame Heard ? La réponse est oui.
Oui, selon le jury, Amber Heard a monté de toutes pièces avec malveillance des accusations d'abus. Dans une tribune du Washington Post en 2018, elle affirmait être une victime de violences conjugales. Présente hier dans la salle d'audience, l'actrice s'est dite dévastée par le verdict et le qualifie de revers pour les femmes qui prennent la parole. Elle devra donc payer un peu plus de 10 millions de dollars à Johnny Depp. Son ex-époux en demandait 50, estimant que ses accusations avaient ruiné sa carrière. Il explique désormais que le jury lui a rendu la vie. Satisfaction exprimée à la sortie du tribunal par son avocate Camille Vasquez.
Le verdict d'aujourd'hui confirme ce que nous avons dit depuis le début. Les allégations contre Johnny Depp sont diffamatoires et étayées par aucune preuve. Nous remercions les jurés pour leur délibération minutieuse dans ce dossier.
Alors la victoire n'est pas totale pour Johnny Depp. Il devra verser 2 millions de dollars à son ex-femme en cause une phrase de son avocat qui avait qualifié les accusations d'Amber Heard de coup monté. En tout cas, c'est la fin d'un procès ultra médiatisé et commenté en direct de manière inédite sur TikTok, un réseau social où des millions de personnes ont massivement dénigré Amber Heard et défendu Johnny Depp.
Merci Alexis Guilleux, correspondant Europe 1 aux États-Unis.
On revient en France avec ces auditions hier à haut risque pour Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra.
Le ministre de l'Intérieur et celle des Sports ont dû s'expliquer sur la soirée chaotique de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France samedi dernier. 2 heures d'explications au cours desquelles les sénateurs ont pu assister à un début de mea culpa de la part de Gérald Darmanin qui a reconnu des débordements. Arthur Delaborde.
Il y a bien eu des dysfonctionnements et une mauvaise gestion de la foule, selon le ministre de l'Intérieur, qui s'est notamment excusé de l'utilisation disproportionnée de lacrymogènes.
Et j'ai vu personnellement deux faits où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi, notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images, je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. Et j'ai demandé des sanctions au préfet de police.
Gérald Darmanin a en revanche maintenu ses chiffres de 30 à 40 000 supporters anglais sans billets ou avec des billets falsifiés samedi soir, une manière de répondre aux accusations de chiffres gonflés.
D'après les équipes de la Fédération française de football et du Stade de France, plus de 50% des billets, entre 57 et 70% selon les entrées, étaient faux. Ça ne veut pas dire que tous les supporters avaient des billets faux. Il y a eu beaucoup de supporters qui n'avaient également pas de billets.
Le locataire de la place Beauvau a aussi défendu son dispositif et l'action du préfet Didier Lallement, reconnaissant tout de même un nombre insuffisant de policiers pour lutter contre la délinquance.
Nous avons sans doute sous-estimé le nombre de policiers, ou en tout cas l'action de la police de sécurité publique.
Il reste plusieurs zones d'ombre après cette audition, par exemple sur le sort de la note de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme révélée par Europe 1 et qui anticipait ces débordements. Gérald Darmanin a indiqué qu'elle n'avait pas été transmise à la préfecture de police à cause d'un problème, se contentant d'ajouter qu'elle n'aurait pas changé grand-chose.
Arthur Delaborde, et les auditions vont se poursuivre au Sénat. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, va être entendu, tout comme le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et aux grands événements, Michel Cadeau, la RATP et la Fédération Française de Football.
Tout le monde l'a remarqué ces derniers mois, ces dernières semaines, l'inflation galope entre hausse des prix de l'énergie ou encore de l'alimentation, ce qui nous amène à cette question somme toute très légitime, à quand les augmentations de salaire ?
C'est justement la question que l'on se posera toute la matinée sur Europe 1 et c'est pour obtenir une revalorisation de la grille des salaires prenant en compte l'inflation que les salariés du secteur de l'énergie débraye aujourd'hui pour une grève reconductible qui pourrait se traduire par des coupures ciblées. A noter que selon une étude publiée par 60 millions de consommateurs hier, l'inflation pourrait entraîner un surcoût moyen de 90 euros mensuels pour un ménage, dont 27 euros rien que pour le carburant, 32 euros pour l'énergie.
Nous sommes le jeudi 2 juin, il est 5h et bientôt 6 minutes et nous sommes donc à 10 jours des législatives du premier tour. La campagne continue et ce matin, direction la 15e circonscription de Paris.
La fameuse, la seule où l'accord de la NUPES n'est pas respecté. La candidate de l'Union Populaire, Danielle Simonet, et la socialiste Lamia El-Arrache se livrent une bataille féroce, ce qui fait les affaires d'un homme. François-Marie Didier, élu du 20e arrondissement, le candidat Les Républicains, compte bien tirer son épingle du jeu.
Je n'ai cessé de défendre les habitants du 20e depuis 2 ans, notamment contre le projet d'ouverture d'une salle de shoot dans une ancienne école. Rappelez-vous, en septembre dernier, j'ai d'ailleurs été le seul élu du 20e à défendre les habitants. Donc, mon mandat de député, ce sera le prolongement de mon mandat d'élu local pour défendre Paris et défendre les Parisiens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la campagne médiatique qui se déroule entre Lamia Ellarage et Daniel Simonet me semble tout à fait déplacée. Cette circonscription, elle n'appartient à personne. Et les habitants ont besoin d'élus qui les défendent, qui sont à leur écoute. Je crois que c'est vraiment les combats que j'ai menés depuis 2 ans pour les habitants de mon arrondissement. Donc, je ne dirais pas que ce sera une opportunité. Moi, je mène cette élection. Je ne souhaite pas être spectateur, mais être un véritable acteur. Et je crois avoir toutes mes chances pour être au deuxième tour. D'ailleurs, j'avais raté le deuxième tour l'année dernière dans l'élection législative partielle, quelques centaines de voix, ce qui a valu d'ailleurs l'annulation de l'élection.
François-Marie Didier, candidat Les Républicains de la 15e circonscription de Paris, joint pour Europe 1 par Alexis de la Fontaine.
C'est le début aujourd'hui de 4 jours de festivités au Royaume-Uni. Les Britanniques célèbrent les 70 ans de règne d'Elisabeth II.
Concerts, parades militaires, courses de chevaux à l'occasion du jubilé de platine d'Elisabeth II. L'Angleterre rend hommage à sa reine. Tous les Britanniques sont impatients, c'est aussi le cas de Stéphane Bern.
Ce jubilé d'Elisabeth II est un moment historique, d'abord parce que 70 ans de règne, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Royaume-Uni. Aucun souverain n'a régné aussi longtemps qu'elle. C'est à la fois un moment de communion nationale, surtout que le royaume est de plus en plus désuni avec les Irlandais qui se rapprochent de l'Irlande indépendante. Il y a les Écossais qui veulent aussi plus d'indépendance. Et ne parlons pas du Commonwealth avec le Canada et l'Australie qui se détachent de plus en plus de la couronne. Les gens sentent qu'il faut célébrer avec beaucoup d'importance et de face cet événement.
Et signe que cet événement est extrêmement important. Les pubs sont autorisés à fermer plus tard au Royaume-Uni et les ventes de vin pétillant de Dubonnet, le préféré d'Elisabeth II, et de gâteaux Victoria Sponge Cake explosent.
Et votre invité Julien à 6h10, Antoine Michelin, grand reporter, chef du service Royauté à Point de Vue, sera en direct sur Europe 1.
Et je vous remercie pour ce journal complet, Alban Le Prince.
Il est 5h08 et ce sont les courses avec Thierry Léger, le Paris gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon Paris gagnant sera le 504 Mirski. Très bien né, ce fils du crack étalon Siouni, après avoir débuté l'an dernier à l'âge de 2 ans sans réellement convaincre, a montré à tout autre visage cette année en s'imposant dès sa rentrée le 16 avril à Fontainebleau, puis en concluant excellent troisième d'une liste de race le 3 mai sur l'hippodrome de Chantilly. Redescendant cette fois de catégorie, il trouve ici une occasion idéale de remporter une nouvelle victoire. Notez bien, pour ce soir à Paris-Longchamp, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 4, Mirski.
Le numéro 4, c'est noté. Merci beaucoup, Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h10, vous êtes pile à l'heure pour le pressing. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence avec les unes et cette exclamation à la une du Parisien aujourd'hui en France. 70 ans de règne, chapeau, s'enthousiasme le quotidien avec pour illustration une photo d'Elisabeth II portant évidemment un magnifique chapeau couleur carotte. Le Figaro pour sa part a préféré un cliché de la reine avec un chapeau bleu ciel. Le Royaume-Uni fête le règne historique d'Elisabeth II, titre le quotidien, alors que débute aujourd'hui, on vous en a parlé un instant, le jubilé de platine. On termine avec une question. Êtes-vous riche ? Interroge Libération, alors que l'Observatoire des inégalités propose de définir un seuil de richesse, comme il existe par ailleurs un seuil de pauvreté. Eh bien, ce seuil de richesse, il a été fixé à 3 673 € par mois après impôt, ce qui concernerait 7% des Français. Omblin, je me tourne vers vous. Quel article avez-vous choisi ce matin ?
C'est la nouvelle drogue à la mode dans les soirées branchées et qui inquiète de plus en plus les médecins et les autorités. Nom de code 3MMC, une nouvelle drogue de synthèse moins chère que la cocaïne, c'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Effet désiré, désinhibition et excitation à mi-chemin entre la cocaïne et les amphétamines. Alors la 3MMC se fume, se vapote, se sniff ou s'avale, apparue il y a 10 ans dans le milieu gay. Elle s'est diversifiée pour se retrouver aujourd'hui dans tous les clubs des villes et toutes les fêtes, très prisées autant par les filles que par les garçons. Et ils ont en général entre 25 et 45 ans. C'est une drogue bon marché, donc extrêmement facile d'accès. On l'achète sur Internet, on se fait livrer à la maison aussi simplement qu'une commande Amazon, hein, écrit le quotidien. quotidien. On comprend la difficulté donc que peuvent rencontrer les forces de l'ordre pour essayer d'enrayer cette épidémie d'un nouveau genre. Les médecins sont loin de prendre ce problème à la légère également. Selon un addictologue interrogé dans l'article, les complications sont bien pires que celles de la cocaïne car tous les organes peuvent être touchés. Alors accrochez-vous concernant les risques, ils sont quand même multiples. Convulsions et AVC, pour le cœur, infarctus et arrêt cardiaque, des problèmes rénaux, des problèmes ORL car la poudre de cette drogue 3-MMC est extrêmement irritante. Délire, pensée suicidaire, ça fait quand même cher la soirée. Un consommateur raconte avoir vu deux amis tomber en dépression et perdre leur emploi. Un psychiatre rappelle que nous ne sommes pas égaux devant les drogues et qu'un accident peut se produire dès la première prise. L'alerte à la nouvelle cocaïne, la 3-MMC, à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu effrayant.
Oui, c'est inquiétant, effectivement. Je ne connaissais pas du tout cette...
Ben non, je découvre aussi ce matin.
Pas très calé en drogue de manière générale, mais la 3-MMC, c'est un nom de colle, en fait. Hein.
C'est... voilà. Bah, c'est
ou le personnage de Star Wars.
Oui, c'est ça.
Voilà,
oui.
Dans tous les cas,
mais c'est pas bénéfique, quoi qu'il arrive.
Nous préférons Star Wars ou la colle.
Voilà.
merci, Ombline.
Pour coller du papier, alors. Hein.
Oui, oui. À vous, Martin.
Plus léger, ouais. C'est jour de fête aujourd'hui en Angleterre. Stéphane Bern nous en parlait à l'instant dans le journal. La reine Elisabeth II fête ses 70 ans de règne. Alors, 70 ans, hein, c'est considérable. Et pour l'occasion, l'édition du soir de West France s'est intéressée à un sujet méconnu, machine à fantasme, la fortune royale. Ah. Vous l'imaginez, hein, là aussi c'est considérable. La possession du domaine, les possessions pardon, du domaine de la couronne, c'est comme ça qu'on les appelle, sont estimées à 15 milliards d'euros. Alors dans le détail, il y en a partout, hein, un hippodrome, des palais, l'ambassade d'Israël à Londres, mais il y a aussi des biens plus originaux, des supermarchés, des ports, des parcs éoliens offshore, et même la mer qui entoure le Royaume-Uni. Dans les faits, le domaine de la couronne jouit d'un statut particulier, il n'appartient ni au gouvernement ni à la reine. Ses revenus sont gérés de manière indépendante par le ministère des Finances qui calcule chaque année la Sovereign Grant, la subvention souveraine. C'est en quelque sorte les dividendes qui reviennent à la famille royale. Par exemple, en 2019, hein, elle a touché quelque 93 millions d'euros.
Alors du coup, vous nous inquiétez, la reine dans tout ça, elle a des biens personnels ?
Oui, car si les joyaux de la couronne ne lui appartiennent plus personnellement depuis le milieu des années 90, il lui reste quand même de quoi voir venir. Hein, le château de Balmoral en Écosse, celui de Sandringham, des chevaux de course, des bijoux et même des actions, parfois dans des paradis fiscaux, oui, rendez-vous compte. Shocking. Et comme ce n'est pas assez, hein, la Privy Purse, la caissette royale, gonfle chaque année 21 millions d'euros qui correspondent aux revenus du duché de Lancaster qui finissent dans les poches de sa majesté.
Et comment sont lotis les autres membres de la Royal Family ?
Eh bien, ils ne sont pas en reste. Hein. Le prince Charles, par exemple, récupère 5 millions d'euros par an grâce au duché de Cornouailles, dont il est usufruitier. Dans le détail, il touche même 20 millions d'euros, mais la moitié lui sert à payer ses frais de représentation, hein, ses voyages, etc. 5 millions vont aux impôts. Il ne lui reste donc que 5 millions d'argent de poche. D'argent de poche, justement, ils n'ont pas dû en manquer. Les deux petits-fils de la reine, Harry et William, à la mort de leur mère, hein, la princesse Diana, ils ont hérité de 12 millions d'euros chacun, plus l'héritage de leur arrière-grand-mère, hein, Queen Mum. La fortune personnelle d'Harry, par exemple, est aujourd'hui estimée à 30 millions d'euros. D'où vient la fortune de la famille royale britannique ? C'est à lire sur le site de West France.
Merci beaucoup, Martin. Voilà, on se sent
ça
si petit.
Ça fait envie. Hein.
Oh, je ne sais pas si ça fait
pauvre.
Envie.
Hein.
Je disais quoi dans les unes que le seuil de
oui,
de
3673
ouais. euros par mois après impôt pour être riche en France.
Ils sont voilà. Un chouillou dessus.
Non,
un petit poil. Bon, j'ai choisi pour ma part un article de l'hebdomadaire Le Point qui s'intéresse à l'enfance de Romy Schneider, l'immense actrice dont vous avez peut-être entendu parler le week-end dernier puisque dimanche c'était les 40 ans de sa disparition. Beaucoup a été écrit sur sa mort, sur ses errances, l'alcool, son caractère entier, son âme vulnérable. Mais pour comprendre Romy, il faut aussi remonter, paraît-il, sur ses blessures d'enfance, ses premières années vécues en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que ses parents, tous deux acteurs, étaient de vils courtisans du régime nazi. Car avant la sublime Romy Schneider, il y eut l'intrigante Magda Schneider, sa mère qui fut une vraie vedette dans l'Allemagne des années 30. Elle a connu nombre de succès au théâtre puis au cinéma, tout comme son mari, Wolf Albert Reti, acteur prolifique, 3 ou 4 films par an, assuré par sa proximité avec le régime nazi. Ses liens d'amitié avec un certain Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, lui ont même permis d'éviter d'être enrôlé. Quant à Magda, la mère de la petite Rosemary, la future Romy, elle va se retrouver géographiquement très proche des dignitaires nazis en raison de sa maison de campagne, un chalet cosy débordant de géranium qu'elle a fait construire à Berchtesgaden en Bavière, ce petit Saint-Tropez montagneux où Adolf Hitler Hitler décida également de s'installer dans les années 30. Le Berghof, le fameux nid d'aigle, n'est qu'à 600 mètres à vol d'oiseau de la demeure de Magda Schneider, que le Führer connaît d'ailleurs très bien pour être allé l'applaudir dans les théâtres de Munich dans les années 30. Il avait pour elle le béguin et lui faisait porter régulièrement des fleurs. Voilà pourquoi Magda Schneider était régulièrement invitée à Berghof, à prendre le thé avec Hitler. Il lui est même arrivé à plusieurs reprises de s'y rendre avec la petite Romy. D'ailleurs, on aperçoit la fillette en compagnie du dictateur sur une vidéo tournée par Eva Braun, la plus jolie petite fille de Berchtesgaden. Voilà comment l'appelait le Führer.
Mais est-ce que la mère de Romy Schneider, donc Magda, était l'amante d'Hitler ?
Alors, on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que Romy, elle, en était persuadée. Je crois que ma mère a eu une liaison avec Hitler. Voilà ce que l'actrice confiait lors d'une interview en 1976. Des déclarations faites sous le coup de l'alcool tempère aujourd'hui en cœur la fille de Romy Schneider ainsi que le biographe de la star, quelque peu gênée aux entournures. D'autant que Magda Schneider, la mère donc, était aussi à l'époque très proche de Martin Bormann, l'âme damnée de Hitler, trésorier et secrétaire particulier du dictateur, l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich, un personnage sombre, brutal et sans aucun scrupule qui tenait les clés du Berghof. Pas de quoi effrayer l'ambitieuse Magda, un œil sur sa carrière, un autre sur sa fille, dont la beauté déjà faisait tourner les képis nazis. Autant d'éléments de découverte tardive qui ont ulcéré Romy Schneider, qui toute sa vie durant a tenté de réparer les choses à sa manière. Son premier mari, l'acteur Harry Mayen, avait été persécuté par les nazis. Elle a donné des prénoms juifs, David et Sarah, à ses deux enfants, et puis elle a multiplié les rôles de victimes du nazisme. On l'a ainsi vu interpréter une juive allemande persécutée dans la guerre, sous la guerre, dans le train, une femme sauvagement assassinée par les SS dans Le Vieux Fusil, ou encore La Passante du Sans Souci, tournée en 81, où elle incarne deux femmes à des décennies d'écart, toutes deux victimes des anciens et des nouveaux nazis. Un rôle dans lequel elle s'est jetée à corps perdu, le dernier film d'ailleurs de sa vie, comme un solde de tout compte. Romy Schneider et les fantômes nazis de son enfance, c'est à lire dans Le Point.
Merci beaucoup Julien. Merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de ce jeudi, le journal permanent, Alban Le Prince.
Après Cherbourg, retour sur le terrain aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Le président se rend à Marseille avec le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Ils visiteront l'une des 59 écoles test de la cité phocéenne où ce sont les directeurs qui recrutent les profs. Contre ce nouveau système, un rassemblement est organisé en fin de matinée. Le stress pour les lycéens aujourd'hui, c'est ce soir, 19h, qu'ils recevront les premières réponses à leur vœu de formation sur Parcoursup. Parmi les cursus les plus demandés, près de 7 candidats sur 10 sont confirmés au moins un vœu en licence. Les salariés du secteur de l'énergie en grève aujourd'hui pour obtenir une revalorisation de la grille des salaires prenant en compte l'inflation. Des coupures ciblées seront possibles. L'inflation justement qui représente un surcoût moyen de 90 euros mensuels par ménage selon 60 millions de consommateurs hier. Exemple avec les carburants, plus 27 euros.
Ce sont les initiatives en France. À présent, la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Robin Goncet.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes étudiant en sixième année de médecine à Grenoble et vous êtes devenu ces derniers mois une star des réseaux sociaux grâce à vos vidéos sur TikTok. Vidéos dans lesquelles vous opérez non pas des humains ou des animaux, mais des fruits. Expliquez-nous.
Bah oui, tout à fait. Alors, j'opère des fruits. Ça a commencé lors du premier confinement. Je sortais d'un stage de chirurgie de la main et j'ai beaucoup suturé au cours de ce stage, ça me manquait de suturer, et puis comme tout bon étudiant en médecine, je me suis mis à le faire sur des fruits, et j'ai installé l'application TikTok au même moment, et je leur ai mis des yeux, donné un prénom, et raconté une petite histoire qui était un prétexte pour suturer, au début rien de scientifique, et au fur et à mesure, ça s'est transformé en vulgarisation médicale pour expliquer comment se passaient des vraies chirurgies sur des fruits dans un bloc opératoire.
Parce que désormais, les apprentis chirurgiens, ils opèrent des fruits, ils s'entraînent pas plutôt davantage sur de la peau de porc ?
Pas vraiment, non. Enfin, les fruits, la peau de porc, c'est peut-être bien quand on est étudiant au tout début, mais on s'entraîne plus souvent quand même sur des cadavres ou sur des fausses peaux. Les fruits, c'est la peau de fruit, elle est même plus fragile que celle d'un humain. C'est pas très représentatif, je vous l'accorde, mais c'est plus le format qui est ludique et coloré, qui est sympa sur le fruit.
Alors, il faut préciser que vous racontez des histoires à travers ces fruits. Vous la videz, vous leur donnez des prénoms, vous racontez leur parcours, vous expliquez pourquoi vous les opérez. L'idée, c'est d'être à la fois ludique et pédagogique.
Oui, tout à fait. Par exemple, comme vous l'avez dit, j'appelle une orange Emma. Emma, elle a un accouchement qui est classique. Puis survient le fait que son bébé, le battement de son cœur ralentit. C'est donc ça, c'est ce qu'on appelle un code rouge. Nous, on peut voir ça aux urgences gynécologiques couramment. Et donc, on va procéder à une césarienne en urgence. Et donc, moi, sur Emma l'orange, donc sur l'orange, je vais représenter avec de la pâte à modeler ou avec d'autres fruits les différentes couches du corps humain, les muscles, le péritoine, l'utérus, et représenter ma césarienne comme ça. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vrais organes, c'est plus facile à regarder et j'essaye d'expliquer comment se passe donc cette césarienne au grand public pour regarder et d'être le plus ludique et faire de la vulgarisation. Quoi.
C'est des vidéos très courtes, mais j'imagine que ça vous demande beaucoup de temps à les réaliser.
Oui, absolument. Les vidéos font moins de 30 secondes et quand c'est une vidéo simple, par exemple, où je représente un hématome intracrânien où je vais mettre de la confiture sous une peau d'orange, ça va bien se passer, ça va durer une heure. Mais par exemple, quand je fais une ligature de trompe ou une grossesse extra-utérine, où je représente l'utérus, les ovaires, les trompes, ça c'est un peu plus d'organisation, je peux aller jusqu'à 4 heures pour faire une vidéo.
Vous faites des opérations sur ces fruits que vous n'avez jamais réalisées sur des humains en tant qu'étudiant ?
Alors moi, en tant qu'étudiant, forcément, je suis influencé par mes différents stages auxquels je suis passé. Je suis passé en gynécologie, je suis passé en orthopédie, en chir de la main, et forcément, ça influence ces opérations, j'y ai participé en tant qu'assistant, pas en tant qu'opérateur principal, évidemment. Et celles que je n'ai pas vues, je me renseigne sur des vidéos YouTube et surtout sur mes cours, sur mes collèges, on a des gros bouquins, des référentiels d'urologie qui expliquent très bien et j'essaie d'être le plus fidèle possible à la réalité pour pas faire d'erreur, évidemment, médicale.
Et vous avez des retours sur ces vidéos ?
Ouais, j'ai beaucoup de retours du grand public qui trouve ça une bonne manière de pouvoir regarder de la chirurgie sans tourner de l'œil. Et surtout, vraiment, c'était le plus important pour moi, c'était d'avoir la validation de mes pairs, de mes collègues. Et vraiment, j'ai des internes, des médecins qui trouvent ça génial. J'essaie d'être le plus fidèle possible à la réalité, ils me le rendent bien. Et il y en a même qui ont proposé du matos de l'hôpital, du matériel, pour essayer d'élaborer un peu plus certaines opérations. Et vraiment, c'est génial.
Vous avez déjà eu vent de chirurgiens qui auraient montré vos vidéos à leurs patients pour leur expliquer l'intervention qu'ils allaient subir ?
J'ai eu le professeur Didier Redmuller, chef de service de gynécologie, dont j'ai eu la chance qu'il a pu voir quelques-unes de mes vidéos, qui voulait l'utiliser lors de ses séminaires pour expliquer qu'on pouvait expliquer aux patients, des fois avec des choses simples, comme avec mes vidéos par exemple, comment allait se passer leur opération. Et donc c'est vraiment une grande fierté pour moi d'avoir appris ça.
Vous avez combien d'abonnés désormais ?
On est autour des 270 000 là, je crois, c'est ça ? C'est énorme.
En très peu de temps finalement.
En quelques vidéos, c'est vrai, ça s'est vite monté. J'ai beaucoup de chance.
L'objectif aussi de ces vidéos, c'est de faire passer des messages, notamment sur l'importance du don d'organes.
Oui, par exemple, c'est vrai que quand j'explique un don d'organes, c'est clair que je passe le petit message pour dire que ça, c'est vraiment important, que ça sauve des vies. C'est vrai, oui. Les messages qui sont passés, j'espère.
Et au-delà de ces vidéos, est-ce que votre voie est toute tracée désormais ? Vous allez devenir chirurgien ?
Ah, y a rien de tracé, rien de moins sûr. J'aimerais beaucoup, ce serait vraiment ce que j'aimerais faire. Mais cette année, je suis en 6e année de médecine, il y a un gros concours qui s'appelle l'ECN qui va décider de ma spécialité et de la ville dans laquelle je vais exercer. Et donc c'est un classement, c'est un concours, donc je vais tout faire pour avoir ma place de chirurgien, mais il n'y a rien de sûr encore.
En tout cas, vous avez gardé la main grâce à vos vidéos. Merci beaucoup, Romain Goncet, de nous avoir partagé votre initiative, vos vidéos dans lesquelles vous opérez donc des fruits comme si c'était des humains. Ça se passe sur TikTok et le nom de votre compte, c'est Fruirurgie. Tout est dit, je crois. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Mais la pandémie, c'est fini. Tout le contraire de cette matinale. On vous dit bonjour, on vous souhaite un bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1 dans un instant. Le journal de 5h30 de Christophe Lamarre avec au menu la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans une école marseillaise. Et puis une question santé à 6h15 avec vous, Omblin, et votre invité.
Oui, le docteur Joseph Monsonego, gynécologue et spécialiste des pathologies induites par le papillomavirus, ce virus sexuellement transmissible responsable du cancer du col de l'utérus. Une nouvelle étude britannique confirme qu'un examen de dépistage tous les 5 ans pour les femmes âgées entre 30 et 64 ans est suffisant. On lui demandera son avis dans 15 minutes.
Et puis juste après, on va parler de riz avec Olivier Pouls.
De riz français cultivé en Camargue. Ce sera 6h10.
Mais avant, c'est la météo.
Danissa Haddadi, lourd et orageux ce jeudi.
Et oui, les premiers orages d'une longue série arrivent en fin de journée, deuxième partie de journée, hein, dans l'après-midi. Ça va concerner la Nouvelle-Aquitaine, le centre et les reliefs de l'Est. On a une large bande orageuse. Des orages parfois forts avec des rafales de vent et de la grêle. Et puis, surtout des cumuls d'eau assez importants. On va suivre ça de près, évidemment, vous tenir au courant. Il va faire lourd aujourd'hui. La chaleur gagne la moitié nord du pays, avec 22 degrés à Lille, 26 à Paris et Rennes. On gagne 4 degrés hein, en 24 heures. 27 à La Rochelle, 29 pour Saint-Étienne et Marseille, 30 degrés à Montluçon, 32 à Cahors. Dans le ciel, une nouvelle fois, le soleil a aujourd'hui du mal à s'imposer avec de nombreux nuages dès ce matin entre l'Aquitaine et les Alpes. On a même quelques petites averses qui circulent. Au nord de la Loire, on a une matinée quand même relativement calme. Mais attention, ce matin, si vous nous écoutez le long de la frontière belge, on a pas mal de brouillard. On a aussi des grisailles au bord de la Méditerranée, vous le savez, hein, si vous êtes dans la région, ce sont les entrées maritimes. Elles vont se dissiper très vite puisqu'on va avoir ensuite un soleil radieux sur la Corse, la Provence et la Côte d'Azur. Bon, profitez-en parce que vraiment, deuxième partie de journée, le temps devient orageux et on part sur une série pour le week-end avec beaucoup d'orages qui vont concerner quasiment toutes les régions.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est bientôt 5h30. Et à la une de ce jeudi, Marseille, laboratoire de l'école du futur. Emmanuel Macron et son ministre de l'Éducation nationale en déplacement dans la cité phocéenne pour défendre l'autonomie des établissements. L'expérimentation divise les enseignants. Dans ce journal, un ministre de l'Intérieur qui s'excuse mollement, mais qui reste droit dans ses bottes. Gérald Darmanin s'accroche à sa théorie des faux billets pour expliquer les incidents du Stade de France. Et puis Roland Garros, début des demi-finales dames cet après-midi. La Polonaise est numéro 1 mondial, Iga Świątek, semble inarrêtable.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Inarrêtable comme le journal qui vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Après l'hôpital, Emmanuel Macron se penche sur l'éducation nationale. Le président était à Cherbourg en début de semaine pour résoudre ou tenter de résoudre la crise des urgences. Il sera à Marseille ce matin, accompagné de son ministre Pape Ndiaye. Au programme, visite d'une école du 10e arrondissement, pas n'importe laquelle. Elle fait partie de ces 59 établissements où l'on teste l'école du futur. Un maître mot, liberté et autonomie pédagogique. Reportage Thibaut Hu.
Des laboratoires de français et de mathématiques pour apprendre différemment. À Marseille, cela sera bientôt possible. 2,5 millions d'euros vont être distribués à 59 écoles de la ville pour déployer de nouvelles techniques pédagogiques d'ici la rentrée prochaine. Séverine Gilles, présidente du mouvement des parents d'élèves MPE13, adhère au projet mais reste sceptique.
Le plan qui est proposé pour Marseille, oui, c'est une bonne direction. Il était nécessaire, il était essentiel. Maintenant, comment on y va? Il y a des moyens qui sont mis sur la table pour un certain nombre d'écoles. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est que ça soit pour tout le monde.
Le risque d'une école à deux vitesses à Marseille, c'est aussi ce que craint Virginie Akiouat, secrétaire générale du syndicat des instituteurs et des professeurs des écoles dans les Bouches-du-Rhône.
L'école de la République doit pouvoir donner exactement les mêmes chances de réussite scolaire à tous les élèves, où qu'ils soient scolarisés. Il met en place une expérimentation, mais sans en définir les contours. On n'aura pas de retour, pas d'évaluation sérieuse de ce dispositif.
Alors Virginie Akiouat ira devant l'école primaire Montpetit, là où se rendra à 11h le président de la République. Elle écrira avec les autres syndicats de l'éducation son mécontentement. À Marseille, Thibaut Hu, Europe 1.
Des excuses, un début de mea culpa, mais sur le fond, Gérald Darmanin maintient sa version. Les supporters britanniques sont responsables du chaos au Stade de France.
Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont tenté d'apporter les réponses aux questions des sénateurs hier. Gérald Darmanin le concède, les choses auraient pu être mieux organisées, mais il n'en démord pas. Faux billets, voire pas de billets du tout, il y avait beaucoup trop de supporters de Liverpool par rapport à ce qui était possible. Cela a moyennement convaincu le président de la commission, François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains, estime nécessaire de poursuivre les auditions.
Globalement, c'est satisfaisant, mais c'est encore insuffisant. Nous avons besoin d'aller plus loin. Ce que je peux dire, c'est que je préfère un discours de vérité assumé qui permet de déterminer des responsabilités et de progresser dans les solutions à apporter, plutôt qu'un discours affirmé, mais qui n'est pas le reflet de la vérité. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les choses ont progressé. Il y a encore un peu de chemin à faire, nous allons le faire. Des auditions supplémentaires, c'est certain, des documents supplémentaires, c'est certain.
Comme Bernard.
Une mission peut-être, si on devait aller jusqu'à une commission d'enquête, il faut réfléchir quel serait son périmètre, mais avec la particularité, c'est qu'on ne pourrait pas traiter des faits qui font l'objet d'une plainte. Ça, c'est la loi qui nous interdit de le faire.
François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains, avec Arthur Delaborde, le ministre de l'Intérieur, qui confirme par ailleurs l'envoi de policiers français en Espagne et en Angleterre. Ils seront notamment chargés de faciliter le recueil des plaintes pour vol et agression, dont plusieurs d'entre eux affirment avoir été victimes aux abords du stade.
C'était l'une des questions posées par le rapport sur la pédophilie dans l'Église. Une commission vient de fixer le montant des réparations financières allouées aux victimes.
60 000 euros maximum, c'est le plafond proposé par l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. La commission a établi une échelle de 1 à 10 en fonction de la gravité et des conséquences des agressions subies.
5 heures passées de 34 minutes sur Europe 1. C'est l'un des dossiers de cette matinale. Vous en avez eu un aperçu dans le journal de 5 heures. L'inflation ronge notre pouvoir d'achat et ce n'est pas terminé. On a même une idée de ce qu'elle pourrait coûter dans un avenir proche.
90 euros par mois en moyenne. C'est le coût supplémentaire pour chaque ménage selon une étude de 60 millions de consommateurs. À eux seuls, les prix du carburant par exemple, représente près d'un tiers de cette somme. Le pouvoir d'achat, c'est l'objet de la mobilisation aujourd'hui des salariés du secteur de l'énergie. Les syndicats réclament 4,5% de hausse de salaire, des 4,5% de hausse de salaire, des coupures ciblées sont prévues.
C'est toujours un tabou et pourtant, les troubles du comportement alimentaire, ce que l'on appelle la boulimie ou encore l'anorexie, concernent près d'un million de Français.
La journée mondiale de lutte contre les TCA, ces troubles du comportement alimentaire, est aussi l'occasion de faire le point sur cette maladie. Fait nouveau, elle ne concerne pas seulement les femmes, loin de là, les hommes sont de plus en plus nombreux à en être victimes. On n'a pas encore les tout derniers chiffres, mais les spécialistes s'inquiètent. La crise sanitaire et ses restrictions ont fait des dégâts. Yasmine Akhatou.
C'est lors du tout premier confinement que Michael, 30 ans à l'époque, réalise qu'il souffre de troubles alimentaires graves. Il traverse des crises de boulimie, puis des périodes d'anorexie.
Ça a dégénéré vraiment dès l'apparition du confinement. Le contrôle qu'on avait l'impression de perdre avec le confinement, le seul moyen que j'ai trouvé de le rétablir, c'était de m'enfoncer sans me rendre compte dans une spirale d'anorexie. Je pesais moins de 50 kilos, donc j'ai perdu plus de 15 kilos pendant cette période-là. Un an après, j'ai fait une crise suicidaire. Depuis la fin des restrictions, ça va mieux.
Michael est loin d'être un cas isolé. Au centre des troubles des conduites alimentaires de Clermont-Ferrand, les consultations et hospitalisations ont bondi de 30% après le premier déconfinement et la situation risque de se dégrader dans les prochains mois, prévient Valentin Flodia, ex-coordinateur du centre et psychologue.
On a d'autres crises qui arrivent, on a les conflits européens, il y a une inquiétude constante et donc tout ce qui va être des éléments stresseurs où on doit gérer un peu mieux ses émotions, tout ça sont des facteurs de risque pour les troubles des conduites alimentaires.
En revanche, selon le psychologue, être entouré d'une famille et d'amis bienveillants, le lien social permet de limiter l'impact de ces situations stressantes.
Explication Yasmine Akhatou et ses troubles du comportement alimentaire, bien ce sera le thème de l'émission Bien fait pour vous sur Europe 1 ce matin à 11h, présentée par Mélanie Gomez et Julia Viliani.
En Ukraine, la ville de Severodonetsk résiste toujours à l'envahisseur russe.
Oui, mais la situation est difficile, affirme le président ukrainien Zelensky. Les pertes militaires s'élèvent entre 60 et 100 soldats par jour, selon lui. Moscou, qui accuse de son côté les Américains de jeter de l'huile sur le feu en livrant des armes à l'Ukraine. Vive inquiétude d'Interpol, d'ailleurs, qui s'interroge sur le devenir de cet arsenal. L'organisation demande aux États de tracer les armes, faute de quoi elles pourraient tomber aux mains d'organisations criminelles. God Save the Queen à Londres. Les Anglais rendent hommage à leur Queen Mum. Coup d'envoi du jubilé de la reine d'Elisabeth aujourd'hui. 70 ans de règne et 4 jours de festivités. 200 000 manifestations sont prévues à travers tout le pays.
On file à Roland-Garros, tournoi dont Europe 1 est la radio officielle. Et au programme aujourd'hui, les demi-finales d'âme avec un phénomène nommé Iga Świątek.
La numéro 1 mondiale ouvrira d'ailleurs la journée sur le court central. Elle affrontera la Russe Daria Kasatkina. Match prévu à 15h. Un conseil, ne soyez pas en retard. Iga Świątek a expédié leurs 3 dernières confrontations. La Polonaise, impressionnante depuis le début du tournoi, Cédric Chasseur.
Effectivement, certains la comparent à une tornade, mais Iga Świątek ressemble plus à un ouragan que personne ne parvient à stopper. Les chiffres parlent pour la Polonaise cette saison, 33 victoires consécutives sur le circuit, déjà 4 tournois WTA 1000 glanés cette saison, 16-7 remportés, 6-0 dont 3 dans ce tournoi de Roland-Garros. La Polonaise, 21 ans depuis mardi, écrase la concurrence malgré son jeune âge et elle déborde de confiance à l'aube de cette demi-finale.
Il n'y a pas de limite pour moi. Je me sens plus libérée maintenant parce que j'ai réussi à me prouver un certain nombre de choses. Les choses ont changé dans mon esprit. Je me rends compte que je peux être numéro 1. Je peux gérer cette situation convenablement. C'est plutôt agréable.
Tous les voyants sont au vert pour la Polonaise qui n'est plus qu'à 2 matchs d'un deuxième sacre ici à Roland-Garros. Un petit exploit quand on sait que sur les 25 dernières éditions du tournoi Porte d'Auteuil, seulement 4 joueuses l'ont emporté en étant tête de série numéro 1.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1 et l'autre demi-finale dame opposera l'italienne Trevisan à l'américaine Goff. Le football, coup de chapeau, il n'y a pas d'autre mot après la performance des footballeurs ukrainiens vainqueurs 3-0 de l'Écosse hier en barrage de la Coupe du Monde. Ils tenteront d'arracher leur billet pour le mondial qatarien dimanche au Pays de Galles.
3-1.
3-1, oui. J'avais minoré la performance des Écossais qui ont sauvé l'honneur.
Ça n'enlève
c'est ce
rien
qu'on
à la prestation exceptionnelle de cette équipe ukrainienne, évidemment traumatisée et qui n'a pas eu le temps de s'entraîner. Voilà, ils seront peut-être à la Coupe du Monde, c'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaite. Merci beaucoup Christophe Lamarre pour ce journal. On passe aux courses hippiques, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que va se courir ce Quintet, un handicap qui réunira 15 chevaux âgés de 4 à 8 ans et non 16. Comme initialement prévu, le numéro 8 ayant déclaré forfait. Irrésistible lors de sa dernière victoire sur cette piste le 21 avril, Shankir, le numéro 4, sera sans hésitation mon favori. Tardif et en plein épanouissement, il ne cesse de s'améliorer à chacune de ses sorties et possède ici à l'évidence des arguments solides pour remporter son premier quintet. On lui opposera les numéros 10, Portalis, qui reste sur 3 faciles victoires et dont les limites actuelles restent à déterminer. 2, Thunderspeed, 2 fois à l'arrivée cet hiver à Cagnes-sur-Mer dans des épreuves similaires. Et 9, Ronaldo, dont la dernière fin de course sur cet hippodrome de Longchamp laisse augurer dès ce soir une très grande performance. Enfin, les numéros 3, Kello, 1, Momarassa, 7, Lienessi et 13, Trabuco compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 10, 2, 9, 3, As, 7 et 13.
Vous pouvez retrouver ces pronostics sur europe1.fr. Évidemment, merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu de...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et on vous en parle depuis 5 heures. C'est un long week-end festif qui démarre aujourd'hui au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui s'apprête à célébrer le jubilé de platine de sa reine Elisabeth II au pouvoir depuis 70 ans. Au programme, parade militaire, services religieux, concerts et courses hippiques. Un événement pour les Anglais, mais qui passionne aussi chez nous. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Élise, il faut le dire que la reine a toujours eu une relation assez spéciale avec la France. Hein.
Et oui, il suffit d'entendre son français impeccable pour comprendre que la reine a un attachement profond à la France qu'elle a exprimé au général de Gaulle en 1960.
Monsieur le Président, je lève mon verre à la grandeur et au bonheur de la France.
Puis au président Georges Pompidou en 1972.
Monsieur le Président, je lève mon verre en votre honneur et je bois à la prospérité et au bonheur de la France, notre voisine, notre amie.
Vous l'aurez compris, la reine aime lever son verre, mais pas que. Cette année-là, elle affiche clairement son admiration pour Paris.
Paris n'est pas une ville comme les autres. C'est une lumière qui scintille dans les imaginations.
Au cours de ce voyage officiel, la reine s'est notamment rendue à Avignon, où elle était très attendue. Écoutez la joie des Français qui ont pu l'apercevoir au micro européen de Pierre Douglas.
Formidable, formidable. J'aurais jamais cru qu'on puisse l'avoir en Provence, jamais.
Elle est sympathique, elle est, passez-moi l'expression, pas chuchiteuse. Elle est bien comme tout.
Je ne me dérangerai pour personne d'autre qu'elle.
Alors Élise, c'est donc une reine aimée dans son pays et au-delà, hein, on l'entend, mais dont la popularité a été entachée à plusieurs reprises.
Oui, son règne n'a pas été un long fleuve tranquille. La reine a traversé le temps et les crises. Le divorce du prince Andrew et de Sarah Ferguson, une première dans la famille royale, suivie de la séparation de Charles et Diana en 1992, la même année que l'incendie du château de Windsor. À l'époque, elle peut encore compter sur le soutien de son peuple.
Cette année, c'est très difficile pour la reine, the queen. Mais c'est très difficile pour la famille, mais il y a toutes les familles en Angleterre qui avaient des séparations, c'est normal.
Mais 5 ans plus tard, un événement d'ampleur va complètement changer la donne.
Un flash spécial, Emmanuel Faux.
Avec à l'instant cette information qui nous est donnée par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, suite de l'accident dont ont été victimes cette nuit Lady Diana et le prince Dodi Al-Fayed, la princesse de Galles est morte. L'information vient de nous être donnée. Nous allons avoir des imprécisions, bien sûr, d'une minute à l'autre, avec Alain Delmas, notamment, qui se trouve à l'hôpital.
La reine mettra près d'une semaine à réagir publiquement à la mort de Diana, provoquant la colère du peuple britannique.
Ce que j'affirme aujourd'hui, en tant que reine et grand-mère, je vous le dis du fond du cœur.
Je l'admirais et la respectais pour son énergie et son dévouement pour les autres.
Une popularité de nouveau mise à mal par la rupture entre le prince Harry, Meghan Markle et la famille royale.
Merci beaucoup Élise Danjean et à demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1. On va parler santé dans un instant avec une nouvelle étude sur le test du papillomavirus. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Europe 1, radio officielle de vos petits matins également. Il est 5h44, excellent début de matinée. On en vient à cette nouvelle étude britannique de grande ampleur publiée dans le British Medical Journal à propos du test du papillomavirus, responsable, vous le savez peut-être, du cancer du col de l'utérus. Étude qui confirme qu'un examen de dépistage tous les 5 ans pour les femmes âgées entre 30 et 64 ans est suffisant.
Bonjour docteur Joseph Monsonego.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes gynécologue et président de la commission des pathologies associées au papillomavirus au Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Alors pour que tout le monde comprenne de quoi nous sommes en train de parler, est-ce que vous pouvez rappeler simplement ce qu'est le papillomavirus ?
Alors les papillomavirus sont des virus très répandus qui se transmettent par contact sexuel à tous les âges de la vie. Et pour certains d'entre eux, ont une capacité à modifier les cellules lorsque ces virus persistent. Dans plus de 90% des cas, ils ont tendance à être éliminés naturellement par l'immunité. Dans 10% des cas, ils persistent dans les muqueuses et vont entraîner des modifications des cellules qui sont toujours bénignes au départ. Et c'est celles que l'on veut détecter, des lésions précancéreuses, pour éviter le développement vers un cancer. À partir du moment où il y a eu une exposition jusqu'au cancer, on l'estime à une durée de 25-30 ans. Donc, on a le temps, durant cette période, d'attraper les lésions considérées comme un risque, de les traiter pour éviter le cancer.
Alors, comment est-il dépisté en France aujourd'hui ?
Alors, en France, de nouvelles dispositions ont vu le jour il y a environ 2 ans, puisque les recommandations françaises désormais indiquent que les femmes de 30 à 65 ans bénéficient d'un dépistage non plus basé sur le frottis traditionnel que faisaient les femmes jusque-là, c'est-à-dire l'analyse des cellules, mais plutôt un frottis dans lequel on va faire uniquement la recherche du virus. Pourquoi ? Parce que le virus, c'est l'agent causal des précancers et des cancers, parce que la présence du virus est, en termes de détection, beaucoup plus sensible à reconnaître, à identifier ce qu'on appelle les lésions de haut grade, c'est-à-dire les lésions précancéreuses, et parce qu'il est démontré maintenant, dans de larges études randomisées très nombreuses, que la recherche du virus permet finalement de réduire le nombre de cancers invasifs comparé aux femmes qui n'ont que simplement un frottis de dépistage. Cette réduction du cancer invasif par la recherche du virus est estimée à 60-70%, ce qui est quand même considérable.
Alors revenons à cette étude britannique qui montre donc que les examens de dépistage du papillomavirus tous les 5 ans, c'est suffisant. Vous confirmez, docteur, que ce délai donc ne met pas la santé des femmes en danger ?
Oui, alors cette étude vient que conforter des données d'études randomisées que nous avions déjà par le passé, à savoir l'absolue sécurité d'un test HPV négatif dans le dépistage d'une femme de 30 à 65 ans, sécurité qui indique que l'espacement du dépistage à 5 ans chez une femme qui est négative au virus lui donne probabilité extrêmement faible, je dirais proche de zéro, de développer un précancer ou un cancer dans l'intervalle. Donc, la présence d'un HPV négatif dans le dépistage primaire autorise en toute sécurité l'espacement du dépistage à 5 ans au regard de ces données britanniques et des données que nous avions déjà par le passé.
Chaque année en France, près de 3000 femmes développent un cancer du col de l'utérus, 1100 en meurent, on l'a dit, hein, le papillomavirus en est la cause principale. Les femmes se font-elles assez dépistées en France ? Sont-elles informées suffisamment ?
Alors, ces chiffres-là sont fondés sur les données que nous avions par le dépistage frottis classique. Mais l'une des problématiques principales en France qui fait que nous avions toujours autant de cancers depuis cancer du col depuis 15-20 ans, C'est aussi parce que nous avons une couverture au dépistage qui n'est pas optimale. Au grand maximum, on est à 60% de la population, avec des variations très importantes d'un territoire à l'autre. Donc, on a deux aspects dans le dépistage. On a l'outil que l'on utilise, qui doit être très sensible à détecter les lésions précancéreuses, et le test HPV participe à cela. Et il y a le nombre de femmes, la couverture au dépistage dans le territoire pour arriver à un taux acceptable, ce qui est d'ailleurs, on va dire, recommandé d'arriver à un taux de couverture d'à peu près 80%. Alors, la France a pris des dispositions dans ce sens depuis 2 ans. Passage du frottis classique au test HPV, mais aussi mise en place d'un programme de dépistage organisé sur le territoire, pris en charge par des centres de gestion du dépistage. Et donc les femmes reçoivent désormais un courrier en leur demandant d'aller se faire dépister justement avec ce test viral après l'âge de 30 ans. Et il est évidemment à la charge totale de la Sécurité sociale.
Oui. En quelques mots, j'aimerais terminer sur ce vaccin recommandé chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans. La France est en retard. Pourquoi ?
Elle est en retard parce qu'il y a un problème de défiance d'une manière générale vis-à-vis des vaccins et de certains médicaments. Et il y a aussi une perte de confiance, probablement par manque d'informations pertinentes, en particulier auprès de certains professionnels qui ne sont pas très engagés dans ce processus, mais aussi auprès de la population. Il est important que les jeunes femmes, les mamans, prennent conscience que nous avons un outil extrêmement puissant pour se protéger du cancer, qu'il est bien toléré et qu'il ne faut pas s'en priver.
Merci beaucoup, Dr Joseph Monsonego, d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes gynécologue et président de la commission des pathologies associée au papillomavirus au Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Merci encore, bonne journée.
Merci à vous.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Alban Leprince.
Et 70 ans, ça se fête. Hein. Les Britanniques célèbrent à partir d'aujourd'hui et pendant 4 jours le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Pour l'occasion, les pubs sont autorisés à fermer plus tard. Hommage également en France avec une cérémonie de ravivage de la flamme sous l'arc de triomphe à 18h30 ce jeudi. Gérald Darmanin fait son mea culpa mais maintient ses chiffres concernant les faux billets. Le ministre de l'Intérieur et celle des sports étaient auditionnées hier après-midi au Sénat sur les incidents du Stade de France. Un mot de Roland Garros, dont Europe 1 est la radio officielle. Marine Cilic, qualifiée en demi-finale après avoir battu Andrei Rublev. Le jeune prodige Holger Rune est tombé face à Casper Ruud, qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem.
Allez, on passe à table avec le fin gourmet, Olivier Pouls.
Bonjour Olivier.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Olivier. Alors au menu aujourd'hui, un voyage inattendu au cœur des rizières françaises, car on ne le sait pas forcément, mais on peut tout à fait déguster du riz made in France.
Oui, absolument. Et si vous pensez que le riz n'est produit qu'en Asie, la Chine et l'Inde et l'Indonésie demeurent de très loin les principaux producteurs quand même, hein, vous allez peut-être être surpris par le voyage d'aujourd'hui. Alors je vous emmène en Camargue, dans des rizières bien françaises, vous l'avez dit. Et l'histoire ne date pas d'hier. On produit du riz de grande qualité chez nous depuis le XVIe siècle, figurez-vous. En 1593, Henri IV ordonne que l'on cultive du riz en Camargue. Le climat de la région semble propice, mais la gestion de l'eau à l'époque pose problème. Alors il faudra attendre 1870 et la création des fameuses digues pour maîtriser l'irrigation pour que la culture du riz démarre vraiment. Mais ce n'est toutefois qu'après la Seconde Guerre mondiale que les rizières françaises vont prendre de l'ampleur. Dans les années 60, on compte quand même 30 000 hectares de rizières. Aujourd'hui, il en reste 13 000 qui sont cultivés.
Olivier, comment se cultive le riz ?
Alors, le delta du Rhône offre des conditions météo idéales, l'humidité, le vent. Alors, il faut savoir que la culture du riz joue un rôle très important dans l'équilibre des sols en Camargue. Il permet ainsi de réguler le taux de sel dans les sols. Après la préparation des sols en hiver, donc le riz est semé en avril et mai pour une récolte en septembre et octobre. Il pousse les pieds dans l'eau, la tête au soleil, comme on dit. Le riz brut récolté est appelé le paddy. Il doit ensuite être décortiqué. On enlève son écorce et alors on obtient ce qu'on appelle Le riz complet.
Et pour le riz blanc, Olivier ?
Alors les grains sont polis, frottés dans un cône de pierre qui va les blanchir progressivement en éliminant la petite pellicule qui les entoure. Ils passent par le stade semi-complet, puis riz blanc.
Quel type de riz trouve-t-on ?
Alors finalement, dans le monde, il y en a 120 000 variétés. Alors, oui. En Camargue, on n'en a pas autant, on en a une soixantaine au total quand même. Ça va du riz long, qui représente 50% de la production, au riz rond, c'est le fameux riz à risotto, aussi utilisé pour le riz au lait, du riz rouge, du riz parfumé de type basmati. On peut trouver du riz complet, semi-complet ou blanc. Et figurez-vous qu'il bénéficie même d'une indication géographique protégée, comme on dit, reconnue donc par l'Europe depuis 2000.
Et donc on a le choix. Est-ce qu'il est meilleur, ce riz de Camargue ?
Il faut savoir que 10% des producteurs de Camargue sont en bio, ce qui est quand même pas mal. Mais globalement, tous ces producteurs ont un cahier des charges assez strict, plus contraignant, en tout cas, que les producteurs chinois ou indiens, qui ont souvent massivement recours à des produits pesticides qui, par la force des choses, se retrouvent à un moment ou un autre dans notre paquet.
Ouais.
Alors, chez Canard des Rivières, par exemple, comme son nom l'indique, ce sont des canards qui se chargent de désherber les rizières au cœur des marais. Ce riz est évidemment un peu plus cher, mais franchement, il vaut le coup. Et puis, sachez qu'il existe en Camargue une route du riz, idéal pour aller découvrir ces cultures un peu originales et pour voyager pas si loin que chez nous.
Merci beaucoup, Olivier.
Bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant, la météo, le journal et des festivités grandioses.
Oui, Londres va être à partir d'aujourd'hui the place to be avec le début du jubilé de platine de la reine, célébration marquant, vous le savez, on vous en parle depuis 5h, les 70 ans de règne d'Elisabeth II, c'est jusqu'à dimanche et on va en prendre plein les yeux, défilés, parades, concerts, courses de chevaux. Le Royaume-Uni va mettre les petits plats dans les grands pour honorer comme il se doit sa queen, dont on sait que l'état de santé s'est quelque peu dégradé ces derniers mois. C'est en tout cas ce que laissent penser les multiples précautions prises par le palais de Buckingham. Qu'en est-il réellement ? Et puis, qui sera aux côtés de la reine pendant ces 4 jours de festivités ? On en parle dans un instant avec le grand reporter Antoine Michelan, chef du service royauté du magazine Point de Vue. Et puis, votre partition, Omblin.
Un groupe anglais qui a essayé de faire un disque avec Prince. Ils n'ont pas eu Prince, mais ses studios à Minneapolis et son producteur, la partition des Fine Young Cannibals dans 20 minutes.
La météo, Anissa Haddadi, c'est le calme avant les orages ?
Oui, ce matin c'est assez calme. On a quelques petites averses en Bretagne, entre le Rhône et les Alpes, et puis en Charente également. Ce matin, ce sont vraiment 2-3 gouttes. C'est des averses qui circulent très rapidement. Sur le golfe du Lion, on a des grisailles et des entrées maritimes, mais c'est au nord de la Seine finalement que la matinée est la plus calme et la plus agréable. Cet après-midi, les orages arrivent entre la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes. On a une large bande orageuse en passant par le Limousin, l'Auvergne, la Franche-Comté. Des orages qui pourront être localement forts. En Bretagne, Normandie, région parisienne, Alsace, Lorraine, c'est calme et ensoleillé cet après-midi. 2 à 18 degrés ce matin, cet après-midi, ça augmente dans le nord. 22 au Havre, 24 à Belfort, 26 à Paris, jusqu'à 32 à Manosque.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Nous sommes le jeudi 2 juin. Très bon réveil à tous, il est 6h. A very happy jubilee. La presse britannique célèbre les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Nous serons à Londres dans un instant où les Britanniques se préparent à 4 jours de festivités. Et vous, est-ce que vous savez comment demander une augmentation à votre patron ? Sur Europe 1, on vous donnera tous les conseils pour arrondir, ou en tout cas tenter d'arrondir votre salaire. Et puis à la fin de ce journal, on plonge dans les rêves de Michel Polnareff. C'est la promesse de Polnareff, un voyage immersif qui démarre aujourd'hui à Paris.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Never, never, jamais un souverain britannique n'aura porté aussi longtemps la couronne. La Queen Elisabeth II fête aujourd'hui ses 70 ans de règne.
4 jours de festivités avec parade militaire, défilé aérien et salut de la reine au balcon de Buckingham Palace.
Oui, et des millions de personnes sont attendues forcément pour ce jubilé de platine historique. Les plus chevronnés ont même passé la nuit devant les grilles du Palais Royal. La stratégie pour apercevoir un bout de chapeau de la souveraine, des admirateurs qu'a rencontré notre correspondante Anaïs Cordoba.
Le long du Mall, la grande allée face au palais, des dizaines d'admirateurs de la monarchie vêtus aux couleurs de l'Union Jack ont posé leur tente cette nuit pour être au premier rang du spectacle. Parmi eux, Janice et Linda, deux jumelles du nord de l'Angleterre, qui campent pour la première fois pour un événement royal.
On devait venir cette fois-ci.
C'est probablement la dernière fois qu'on verra la reine. Ça va être très spécial. C'était pas possible de rater ça.
On est là parce qu'on est fiers d'être britanniques.
À côté d'elle, Minerva, une habituée des événements royaux, et Sandra, sa voisine, qui attendent avec impatience le passage de la reine dans son carrosse.
On n'a connu que la reine. Peu importe qui lui succédera, il n'y aura jamais qu'une seule reine, la reine Elisabeth, notre reine.
Oui, après, ce ne sera plus la même chose, donc c'est très important de voir ça.
Le clou du spectacle se déroulera ensuite sur le balcon de Buckingham, où la reine viendra saluer le public, accompagnée par 17 membres de la famille royale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
On revient en France à 6h02 sur Europe 1 avec cette mobilisation rarissime dans une maison peu habituée, il faut le dire, à la contestation.
Oui, le personnel du Quai d'Orsay est en grève. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois dans l'histoire du ministère des Affaires étrangères. Ils protestent contre la réforme de la haute fonction publique qui prévoit entre autres la disparition des corps historiques de la diplomatie.
Journée de grève également parmi les salariés du gaz et de l'électricité. La CGT prévoit des coupures ciblées dans certaines institutions.
Et le syndicat réclame une hausse des salaires pour faire face à l'inflation. 5,2%, on le rappelle, en mai, selon l'INSEE. Votre salaire, votre pouvoir d'achat, c'est ce qui nous intéresse justement ce matin sur Europe 1.
D'ailleurs, Romane, comment demander une augmentation à son entreprise ?
Oui, un moment qu'on appréhende tous forcément, la peur de ne pas trouver les bons mots, les bons arguments. Alors écoutez les conseils de Benoît Serre, président de l'Association nationale des DRH.
La première chose, c'est qu'il faut une cause. L'augmentation, elle reconnaît quelque chose. Alors soit le manager, il sait ce qu'il va reconnaître, soit il n'a pas trouvé comment, et donc c'est au salarié d'apporter les raisons pour lesquelles il estime devoir être augmenté. Ça, c'est la première chose, il faut objectiver en fait. Trop souvent, les demandes d'augmentation sont très subjectives, en fait. Elles ne sont pas argumentées. Et donc, ça ne passe pas. Pour ce qui est du montant à demander, moi, je trouve que c'est toujours préférable de l'exprimer en valeur, c'est-à-dire de ne pas donner un pourcentage. De dire, moi, j'ai regardé un peu le marché, maintenant, sur Internet, on trouve tout ce que vous voulez, hein, pour comparer, et je pense que je devrais être rémunéré à hauteur de temps. C'est toujours très mauvais de justifier un montant par le fait que d'autres l'ont, en réalité. Parce que ça, c'est la meilleure manière de ne pas l'obtenir.
Benoît Serre, président de l'Association nationale des DRH, contacté par Maud Descamps. Voilà un nom habitué au chapitre fait divers. Loïc Le Priol, en détention provisoire, déjà suspecté d'avoir tué l'ancien joueur de rugby Federico Aramburu. Il vient d'être jugé dans une autre affaire. C'était hier au tribunal correctionnel de Paris.
Oui, parce que l'homme de 27 ans est suspecté d'avoir roué de coups un ancien chef du GUD, ce syndicat étudiant d'extrême droite, aujourd'hui interdit. Une agression filmée où le responsable a aussi été forcé de se déshabiller.
Et parmi les prévenus, Loïc Le Priol a le casier judiciaire le plus chargé et c'est donc lui qui a retenu particulièrement l'attention des juges. Portrait d'un homme ultra-violent avec Marion Gauthier.
Ses premiers mots à la victime. Je regrette. L'ex-commando marine présente bien, dos droit, pull tiré, main dans les cheveux. En position, le tribunal lui parle des violences de cette nuit d'octobre 2015. Lui répond alcool, souvenirs parcellaires, effet de groupe, un groupe d'amis militants et hiérarchisés, des codes d'honneur et des duels récurrents. Aujourd'hui, on en est bien loin, répète le prévenu. Indifférence de la présidente, mais Loïc Le Priol récite encore. L'alcool, c'est le retour de mission. Carrière militaire commencée à 16 ans. Trop tôt, souffle la défense. Troubles post-traumatiques et discernement altéré au moment des faits, conclut l'expert psychiatre. L'ancien Mousse évoque ses stages militaires, des passages à tabac, des humiliations pour vous aguerrir, explique-t-il. Un tribunal de visage grave et retour à la victime. Surtout, lance le prévenu, pas d'inversion. Tout ça n'excuse rien.
Marion Gauthier, à 6h05, Julien, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit ?
Alors mieux, je n'ai pas dormi.
Ah, d'accord. écoutez, je vous propose justement de vous rendormir et même mieux, de voyager parmi les rêves de Michel Polnareff. Ah. Oui, alors ne me regardez pas comme ça, c'est la promesse de Polnareff. Une expérience immersive en vidéo et en chanson. Démarrage aujourd'hui au Théâtre du Palace à Paris. La visite en avant-première avec Marie Jiquel.
L'expérience Polnareff débute avec cette impression de rentrer en boîte de nuit en pleine journée. Jean-Pierre, le videur du palace, nous accueille.
À quelques mètres, il fait tout noir. Il y a des vidéos dans tous les sens et les gens sont un petit peu émerveillés.
Avant de pénétrer l'inconscient de Michel Polnareff, Héloïse de l'équipe Polnareff nous conseille de tendre l'oreille dans ce long couloir.
On va sur le mur des murmures et quand on approche une oreille, il y a Michel Polnareff qui parle.
Il vous dit quoi ?
Là, il s'envole en baleine et en sirène.
Marc Benaïch.
On va trouver à l'intérieur des rêves.
Le concepteur de cette expérience.
Des rêves de 14 mètres de haut à 360 degrés qui nous feront
perdre un peu la tête, c'est l'essence.
700 mètres carrés de drap blanc recouvrent l'espace d'étoiles sur lesquelles sont projetées des vidéos de l'univers poétique du chanteur, des forêts luxuriantes, l'espace ou encore la chapelle Sixtine. Il n'y avait pas de limite avec Michel Polnareff.
Aucune limite.
Un aperçu du paradis selon Michel Polnareff qui plane dans ses images, du moins ses boucles blondes et ses lunettes blanches.
Voilà, voyage au pays de Michel Polnareff. Vous avez le temps, Julien, c'est jusqu'en mars 2023 au Palace à Paris.
J'ai le temps de me rendormir, donc.
Exactement.
Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup, Romane. À plus tard.
6h07, les sports. Le journal des sports Martin Lange et on file à Roland-Garros avec... où les femmes, pardon, sont à l'honneur aujourd'hui.
Oui, demi-finale féminine aujourd'hui avec une ultra-favorite, la numéro 1 mondiale Iga Świątek, tombeuse hier de l'américaine Jessica Pegula. La polonaise enchaîne une 33e victoire d'affilée sur le circuit, tout simplement imbattable. Et si elle s'est déjà imposée porte d'Auteuil il y a 2 ans, son statut a définitivement changé. Écoutez.
Je me sens plus libérée maintenant parce que j'ai réussi à me prouver un certain nombre de choses. Les choses ont changé dans mon esprit. Je me rends compte que je peux être numéro 1. Je peux gérer cette situation convenablement. C'est plutôt agréable.
Face à elle cet après-midi, la Russe Kazatkina. Dans l'autre demi-finale, la surprise italienne Martina Trevisan affronte la jeune prodige américaine Coco Gauff.
On connaît aussi les affiches des demi-finales chez les hommes.
Oui, d'un côté Nadal Zverev, ça on le savait depuis mardi, et de l'autre, un plus surprenant Rude Cilic. Le Norvégien Rude est venu à bout hier du jeune Holger Rune en 4-7. Il jouera sa première demi-finale en Grand Chelem vendredi contre un revenant, le Croate Marin Cilic, qui n'avait plus atteint ce niveau depuis 4 ans. Il a battu le Russe Rublev après un marathon de plus de 4 heures.
On passe au football, Martin, et il y avait beaucoup d'émotions hier à Glasgow.
Vous entendez un hymne ukrainien chanté par tout un stade. Et les Ukrainiens, justement, peuvent continuer à croire en leur rêve de Coupe du Monde. Ils ont battu hier soir l'Écosse 3-1 et ne sont plus qu'à une marche du Qatar. Pour cela, il faudra battre le Pays de Galles dimanche. Dans l'autre choc de la soirée, la Coupe Intercontinentale des Nations, c'est l'Argentine de Léo Messi qui s'impose largement face à l'Italie 3-0. Et puis demain, place à nos Bleus. L'équipe de France affronte le Danemark en Ligue des Nations. Les Bleus sont tenants du titre, mais ils sont surtout là pour préparer le Mondial avec des petits jeunes qui s'installent comme Moussa Diaby, l'ailier de Leverkusen, qui vit un rêve éveillé aux côtés de Benzema et Mbappé.
C'est deux grands joueurs. Je pense qu'en jouant avec eux, j'ai la possibilité de faire de bonnes choses et aussi d'en apprendre un peu plus sur le football de haut niveau.
En parlant des jeunes coqs, les moins de 17 ans sont devenus champions d'Europe. Hier, ils ont battu les Pays-Bas 2-1.
Merci beaucoup, Martin. C'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant. Le jubilé de platine de la reine, Elisabeth II. On en parle avec Antoine Michelan, chef du service royauté du magazine Point de Vue. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h12 sur Europe 1. Votre invité Julien est grand reporter et chef du service royauté de l'hebdomadaire Point de Vue.
Bonjour Antoine Michelan.
Bonjour Julien Pierce.
Ou plutôt good morning, puisqu'on va s'intéresser avec vous à ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Le début aujourd'hui des célébrations marquant les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Jubilé de platine qui se déroulera donc jusqu'à dimanche. Quels vont en être les temps forts, Antoine Michelan? Il y a une parade militaire aujourd'hui, je crois?
Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment un très très gros temps fort. C'est ce qu'on appelle le Trooping the Colors, c'est-à-dire en fait la présentation des couleurs régimentaires de la garde à la souveraine et aux troupes elles-mêmes. C'est vraiment l'anniversaire traditionnel du souverain depuis en fait le début du 19e siècle de façon régulière et plus ancienne également. Là, on confond à la fois cet anniversaire volontairement et les 70 ans de règne. Pour justement ne pas trop fatiguer la souveraine, donc ça va être tout groupé cette fois-ci.
Est-ce qu'on pourra l'apercevoir?
Alors justement, oui. On l'apercevra au balcon du palais où elle sera présente au moment du retour de toutes les troupes et de la famille royale qui participera à la cérémonie qui se passe sur Osgoode Parade un peu plus loin et au moment également du défilé aérien qui passera juste au-dessus du balcon du palais de Buckingham.
Et qui l'accompagnera sur ce balcon? On parle de la famille royale, mais c'est tellement large que qui sera présent?
Alors là, ce sera ce qu'on appelle les Walking Royals, c'est-à-dire en fait 17 personnes. Il y a bien sûr le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, leurs enfants également. Et puis il y a le comte et la comtesse de Wessex, la princesse Anne et l'amiral Timothy Lawrence, les enfants du comte et la comtesse de Wessex, Le duc de Kent et le duc du château de Gloucester.
Donc, si je comprends bien, pas de prince Andrew, ni d'Harry, ni de sa femme Meghan Markle.
Non. Ou alors ce serait une très très grande surprise, mais ils ne sont pas du tout prévus. C'est vraiment resserré pour que soient présents ceux qui travaillent justement au sein de la famille royale et se dévouent au service de la nation.
Je crois en revanche qu'ils vont apparaître demain lors d'une messe, c'est ça, à la cathédrale Saint-Paul de Londres ?
Oui, il y a une célébration d'action de grâce demain à 11h à Saint-Paul. Et là, c'est considéré comme quelque chose de, entre guillemets, un petit peu plus privé. Et donc là, ils seront présents. Oui.
Mais ça fait débat en Angleterre, leur présence, notamment celle du prince Andrew, le deuxième fils de la reine, qui est, je le rappelle, accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Ça fait débat.
C'est-à-dire que ça fait débat, mais c'est pour ça justement qu'ils ne seront pas présents au balcon, surtout lui. Mais en fait, comme c'est une partie d'action de grâce, une partie entre guillemets plus privée, ça fait un peu moins débat. Ça aurait fait débat s'ils avaient été présents au balcon, là ça aurait été très embêtant, parce que c'était vraiment une célébration nationale, et même plus que nationale. Et ça concerne absolument tout le Commonwealth, au-delà de la Grande-Bretagne et des autres royaumes de la reine.
Et on l'entend à travers les reportages qu'on diffuse depuis ce matin, on le voit aussi sur toutes les télés du monde, c'est un moment extrêmement attendu des Britanniques, ce jubilé de platine.
Ah oui, c'est absolument sans aucun précédent. 70 ans de règne, ça ne s'est jamais vu en Grande-Bretagne. La plus grande longévité, c'était la reine Victoria qui avait à peine dépassé, si j'ose dire, c'est déjà beaucoup les 60 ans de règne. Et même dans le monde entier, vous pouvez regarder, il n'y a pas un souverain qui a dépassé les 70 ans de règne, à l'exception de Louis XIV. Et encore, c'était avec une période de régence, puisqu'il est sur le trône enfant. Si, il y a le roi Bhumibol de Thaïlande qui a fait 70 ans et quelques mois, 4 mois, je crois.
Qu'est-ce que vous êtes pointu ? Il y a aussi un petit côté fête d'adieu, non ? Vu l'âge de la reine, 96 ans, et les nouvelles peu rassurantes, en tout cas transmises ces derniers mois par le palais de Buckingham.
Mais de toutes les façons, la reine a 96 ans, il est quand même peu probable que dans 10 ans, elle soit encore sur le trône. Donc effectivement, c'est la dernière grande célébration de son règne, et c'est une manière aussi pour tous les Britanniques de la remercier, parce que c'est vraiment une vie entière au service de la nation, avant même qu'elle monte sur le trône d'ailleurs, puisque même enfant, même pendant la guerre, elle adressait déjà des discours aux enfants qui étaient évacués pendant la guerre pour les rassurer, pour leur dire que la famille royale et elle-même étaient avec eux. Enfin, c'est quelqu'un que tous les Britanniques ont connu, c'est colossal. Donc oui, plus qu'une fête d'adieu, c'est une fête de remerciement, parce qu'elle est toujours là, et même si elle a de grandes difficultés pour marcher, ben écoutez, elle a encore enregistré quelques remarques, pas une interview, parce qu'on n'en donne jamais, à propos du documentaire qui a été diffusé sur la BBC dimanche soir, où on voit bien, on entend à sa voix qu'il y a une lucidité parfaite.
Elle est encore toute sa tête, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire.
Ah oui, absolument, oui. Absolument, et où elle explique en fait que justement, elle espère que ce jubilé de platine sera l'occasion de rassembler les Britanniques et le Commonwealth, et que plus loin on regarde dans le passé, plus loin on voit l'avenir, et que c'est une leçon d'optimisme, etc. Donc elle-même donne le ton.
Oui, elle donne le ton à Antoine Michelin, mais on a quand même le sentiment par ailleurs que le palais de Buckingham prépare les Britanniques d'une certaine manière à l'idée que la reine n'est pas éternelle, quitte à en faire peut-être un peu trop, non ? Parce que début mai, on nous dit qu'elle n'est pas en état d'assurer le traditionnel discours du trône au Parlement, et une semaine plus tard, elle apparaît visiblement en forme à l'inauguration d'une station de métro. Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Il faut en penser qu'elle a 96 ans, et que les jours ne se ressemblent pas toujours, justement. C'est-à-dire qu'il peut être un jour où elle est bien, un jour où elle est moins bien. On peut avoir une très désagréable surprise aujourd'hui et ne pas la voir apparaître au balcon, ou bien on peut très bien avoir une très agréable surprise et la voir, ce qui n'est pas prévu absolument, présente sur Rosewater Parade et voir les couleurs défiler devant elle. Là, ce serait formidable, évidemment. Donc, elle n'est pas venue, en fait, au
discours.
Prononcer le discours, parce que je pense que ce jour elle était un petit peu moins bien, ou parce que elle n'a pas voulu non plus se montrer avec des difficultés pour marcher, parce qu'elle a du mal à accepter depuis quelques mois d'avoir des difficultés à se déplacer
Et puis c'est une manière également aussi de commencer à passer le flambeau à son fils. Merci beaucoup Antoine Michelan, chef du service royauté de Point de Vue, de nous avoir éclairé sur ce jubilé de platine qui débute donc aujourd'hui au Royaume-Uni. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous. Très bonne journée.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h19, les titres avec Alban Le Prince.
La fin d'un procès que Le Monde a suivi comme un feuilleton, celui opposant Johnny Depp à Amber Heard. Les ex-époux ont été reconnus coupables de diffamation. L'actrice doit verser 10 millions de dollars à Johnny Depp, qui doit aussi lui payer 2 millions de dollars de compensation. Au Danemark, plus de 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, 67% des Danois ont voté hier en faveur d'une intégration à la politique de défense de l'Union européenne. Décision salué par les chefs de l'UE, Ursula von der Leyen et Charles Michel. Et puis les choses auraient pu être mieux organisées. Gérald Darmanin reconnaît des erreurs mais maintient ses chiffres de 35 000 spectateurs sans ou munis de faux billets. Le ministre de l'Intérieur et celle des Sports étaient entendus par les sénateurs hier sur les incidents du Stade de France.
On reste en Angleterre pour votre partition, Omblin. En Angleterre, avec un ovni de la pop britannique des années 80, les Fine Young Cannibals.
Exactement, oui, parce qu'en seulement 2 albums, Julien, et de manière totalement décomplexée, ce groupe au nom improbable, faut bien le dire, tiré d'un film, de 1960 avec Nathalie Wood et Robert Wagner, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais vu, eh bien, ce groupe a réussi à mélanger, sans que ça se voie, du ska, de la soul, du jazz et de l'acid house, un genre de musique électronique. Et c'est sans doute cette absence de style revendiqué qui a fait leur succès.
À l'origine des Fine Young Cannibals, deux membres de la section rythmique du groupe anglais The Beat.
Oui, un groupe de ska qui a émergé au moment de la renaissance du genre à la fin des années 70 en Angleterre. Le ska, cette musique au rythme syncopé, apparue 10 ans plus tôt en Jamaïque, fruit de nombreuses influences. The Beat se sépare en 1983. Et donc David Steele et Andy Cox décident de mettre sur pied leur propre projet en recrutant juste un chanteur. Et ils comptent concentrer leurs efforts sur la création studio. Pas de place ni pour la scène ni pour les concerts.
Pour trouver leur chanteur, David Steele et Andy Cox passent une annonce sur la chaîne musicale MTV.
La légende raconte qu'ils ont reçu des centaines de cassettes, mais à l'arrivée, rien. Personne ne leur tape dans l'oreille. Ils se rappellent alors de ce gars qui jouait au saxophone pour un autre groupe de ska de Birmingham.
Et ce joueur de saxophone qui chante également est recruté.
Oui, la perle rare s'appelle Roland Gift, un beau garçon au physique de mannequin et surtout à la voix de falsetto, digne des plus grands soulmen de la Motown.
Le trio baptisé Fine Young Cannibals sort son premier single
Johnny Come Home, qui va leur permettre de décrocher un contrat avec une maison de disques et de sortir en 1986 leur premier album. S'ils sont boudés par le public américain, le cinéma est en revanche séduit, à l'image du réalisateur Barry Levinson qui les fait apparaître dans son film Les Filous, Tine Men en anglais.
Et pour leur deuxième album, les Fine Young Cannibals caressent l'espoir de travailler avec Prince.
Oui, mais le kit de Minneapolis est inapprochable. Alors ils se replient sur le producteur David Zee, un deuxième choix en or, puisqu'en plus d'être le frère du batteur du groupe de Prince The Revolution, eh bien il est celui qui a entièrement réarrangé le titre Kiss. Les Anglais s'envolent pour le Minnesota, prennent leur quartier à Pest les parcs, les studios de Prince, et avec David Zee, ils construisent patiemment et méticuleusement ce qui deviendra leur chanson signature.
We'll be right back.
She Drives Me Crazy, qui ne ressemble en rien au reste de l'album The Raw and the Cooked, avec lequel les Fine Young Cannibals vont truster la première place des classements aux États-Unis pendant 7 semaines dès le début du mois de juin 1989. Voilà une belle revanche sur leur début raté outre-Atlantique.
Merci beaucoup, Ombline. Vous restez avec nous dans un instant. Votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et on vous donne rendez-vous demain à partir de 5h. Bon pied, bon oeil. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.